Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero au micro. Cette semaine dans Escale, cri d'alarme pour la République centrafricaine. La coordinatrice humanitaire de l'ONU pour le pays, Najat Rojdi, appelle à renouveler l'appui au relèvement de la RCA avant que le pays ne sombre à nouveau dans le conflit. Cette nation centrafricaine connaît une recrudescence des violences depuis le début de l'année. Elle se dirige droit vers une nouvelle crise humanitaire d'envergure sous fond de manque de financement pour les opérations d'assistance.
50% de la population de la République centrafricaine est dans le besoin d'une assistance humanitaire. Donc vous pouvez imaginer que c'est un pays en fait qui est privé de 50% de sa capacité de se reconstruire, de sa capacité de sortir de la crise et de sa capacité en fait d'aller vers une consolidation de la paix. Et dans ces 50%, nous comptons à peu près 900 000 personnes qui sont déplacées, soit des déplacés internes, et c'est à peu près la moitié qui sont des déplacés internes, soit des réfugiés qui aujourd'hui se trouvent au Cameroun, au Tchad et en République démocratique du Congo. Cette assistance humanitaire, elle se traduit par le besoin de l'aide alimentaire. Quand vous pensez que c'est un pays qui a une terre tellement fertile, je veux dire, vous pouvez jeter des semences et ça peut pousser tout seul, et qui aujourd'hui se retrouve dans une fragilité par rapport à la sécurité alimentaire. C'est aussi très dramatique parce que nous avons des dizaines de milliers d'enfants qui aujourd'hui ne vont pas à l'école, et ça veut dire que c'est toute une génération de sacrifiés si on n'arrive pas à trouver des solutions. Et c'est bien évidemment un certain nombre de fragilité et de vulnérabilité, soit par rapport à des épidémies, soit par rapport au paludisme et autres problèmes de santé auxquels la population est confrontée au quotidien.
Alors, dans ce contexte, l'aide humanitaire joue un peu un rôle de bouée de sauvetage pour une grande partie de la population. Or, on sait aussi que c'est l'un des contextes les plus dangereux pour les humanitaires. Et d'ailleurs, dans certaines zones du pays, on a vu déjà 33 attaques cette année et des humanitaires qui doivent se retirer. Alors, quel est l'impact de ce vide que laissent les humanitaires quand ils quittent les régions pour des raisons de sécurité ?
Alors, je voudrais relativiser, les humanitaires ne quittent pas partout. Nous, cela arrive de temps en temps et c'est vraiment l'occasion pour moi, en tant que coordonnateur humanitaire, de saluer le formidable engagement de tous les humanitaires qui interviennent au niveau de la République centrafricaine, des ONG en particulier, et de leur dédication réellement. Il y a bien évidemment des attaques et ce n'est pas une surprise. Vous savez, l'intérêt des groupes armés, c'est que la population soit abandonnée à elle-même. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils arrivent à la garder en otage. C'est en fait ce qui se passe. Et moralement parlant et psychologiquement parlant, c'est la manière pour ces groupes de démontrer qu'en fait, personne ne s'occupe de la population. Et c'est la raison pour laquelle je fais toujours le lien entre l'assistance humanitaire et la consolidation de la paix. Vous savez, voilà de milliers de familles, voilà des milliers d'enfants, voilà des milliers d'adolescentes et d'adolescents qui aujourd'hui ne voient pas encore de perspective. Et vous savez à quel point c'est important quand on a 15 ans et quand on a 16 ans de rêver et de se dire demain je vais faire. Vous savez très bien à quel point c'est important pour une mère, pour un père de se dire je vais envoyer mes enfants à l'école, comme ça je peux rêver et espérer un avenir meilleur pour eux. Donc l'aide humanitaire et l'assistance humanitaire en République centrafricaine, elle n'est pas faite uniquement et elle ne devrait pas faite uniquement pour tout ce qui est urgence. Ce qu'on fait, c'est que dès le départ, et aujourd'hui, on est arrivé à un point tournant justement de la situation en RCA où on ne peut pas nous permettre d'aller que vers le temporaire. Imaginez, si on reste dans cette optique de l'approche du temporaire, ça veut dire que nous allons continuer à déplacer des populations d'un camp vers un autre camp. Quelle perspective donnons-nous à la population ? Si on doit rester uniquement dans le temporaire, ça veut dire que nous allons encore mettre un centre de santé qui sera temporaire. Si on doit rester uniquement dans le temporaire, ça veut dire que oui, pour les 6 mois à venir, nous allons garantir l'accès à l'école, mais qu'après, on ne sait pas. Et à cause de tout cela, ce que nous sommes en train vraiment de faire au niveau de la RCA, et je remercie tous les acteurs, aussi bien ceux du développement que ceux de l'humanitaire, que bien évidemment tout l'appui que la mission apporte, c'est d'aller vers ce travail conjoint, vers cette compréhension conjointe et vers cette planification conjointe. Chacun des acteurs, bien sûr, dans son domaine et dans son expertise et dans son mandat. Mais ça, c'est fondamental. Vous savez, j'ai été sur le terrain. J'ai été, entre autres, à Kagabandourou, à Pawa et dans d'autres endroits. Et je peux vous assurer trois choses. Que à chaque fois que j'ai rencontré la population, ont été posées sur la table. La première, c'est la dignité. Vous savez, quand vous restez debout à attendre le jour de la distribution de la nourriture et que votre famille sait que ce n'est pas vous qui êtes en train de gagner votre vie pour nourrir votre famille conformément à votre responsabilité, mais qu'en fait, vous êtes dans la file à attendre qu'on vous donne tant de kilos de riz, de sel, d'huile, etc. Ce n'est pas une situation que qui que ce soit voudrait avoir. Donc ça, c'est un élément fondamental, la dignité. Vivre dignement, vivre dans la dignité. La crise en RCA et le conflit en RCA a été chronique parce qu'il y a eu ce sentiment d'exclusion, parce qu'il y a eu ce sentiment et cette sensation de, justement de ne pas avoir sa dignité. Aujourd'hui, nous, en tant qu'humanitaires, nous, en tant que Nations Unies, on doit tout faire justement pour éviter que ce sentiment d'injustice ou que ce sentiment de blessure puisse revenir à cause d'une situation humanitaire.
Comment ?
En leur permettant de retrouver une vie normale. On est persuadé que la consolidation de la paix et capitaliser sur les dividendes de la paix, c'est en leur permettant de retrouver une vie normale, en mettant toute notre énergie à mettre en place les conditions de retour.
Il y a quand même des problèmes de fond dans les conflits, des problèmes de mode de vie différents. Il y a l'utilisation différente des terres, de transhumance.
Absolument. Et il s'agit pour nous d'adresser toutes ces questions. Ce sont des questions d'ailleurs que nous avons commencé à adresser, par exemple sur tout ce qui est corridor de transhumance, avec la FAO et d'autres acteurs, et avec la mission et le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale, l'UNOCA. Il y a aujourd'hui toute une réflexion et une stratégie qui est en train d'être élaborée pour réviser les corridors de transhumance. Parce qu'en fait, beaucoup de conflits sont des conflits agro-pastoraux qui ne sont pas forcément liés à des conflits typiquement ou purement interethniques. Mais en fait, c'est beaucoup plus tout simplement les éleveurs qui viennent avec leurs troupeaux parce que l'herbe en RCA est très verte et les pâturages sont tout à fait disponibles et donc les bétails détruisent des champs de culture. Donc il faut adresser ça, ça c'est sûr et certain. Et pour nous, revenir à une vie normale ne veut pas dire qu'on va leur faire changer leur mode de vie, c'est pas ça l'objectif. Retrouver leur vie, quel que soit leur choix, mais qu'ils retrouvent leur vie initiale parce qu'ils ont eu une vie initiale où ils vivaient quand même en paix. Je veux dire, il y a eu une cohabitation à un moment donné. Donc ça, c'est un élément absolument à adresser en se mettant d'accord sur quels sont les points d'entrée et quels sont ces corridors et s'assurer en fait qu'il y a un accord au niveau régional parce que vous savez quand il s'agit de transhumance, ça veut dire que le Tchad est impliqué, ça veut dire que le Cameroun est impliqué pour ne citer que ces deux pays et donc évidemment, il faudrait que tous les pays soient d'accord. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est bien évidemment, comme vous l'avez dit, pas seulement l'accès à la terre. Beaucoup de familles ont perdu leur maison. Beaucoup de familles ont perdu leurs biens. Donc il est fondamental de trouver des solutions en toute équité. Alors, pour ce faire, il est indispensable qu'on mette en place une commission dite de logement, terre et autres biens. Et nous avons commencé d'ailleurs à discuter avec le gouvernement de la RCA pour justement les accompagner dans la formulation du loi qui permette la mise en place de cette commission et que cette commission va décider. S'il y a bien évidemment des évidences et des preuves qu'une propriété appartenait à une personne et aujourd'hui elle est occupée par d'autres personnes, et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de ces cas-là, il faudra prendre des décisions. Est-ce que la personne va retrouver sa propriété? Est-ce que la personne va avoir des compensations? Est-ce que la personne pourra avoir une alternative dans un autre village? Donc ce sont des questions qui sont fondamentales pour aussi adresser et lutter contre l'impunité et ce sentiment d'injustice. On ne peut pas garder ça.
Dresser un tableau vraiment de relèvement, de construction, d'efforts conjoints à moyen et long terme. Mais en même temps, vous avez décrit un contexte qui est quand même dur. La moitié de la population qui a besoin d'une aide. Il y a une urgence. Comment coordonner les deux? Et en plus, sur fond de violence, parce que la violence fait recrudescence. C'est pas
absolument,
fini.
Absolument. Nous agissons et nous intervenons dans un environnement assez volatile. Ça, il faut le dire, en termes de sécurité. Et notre conviction profonde, c'est que plus vite on met en place les conditions de retour pérennisées et durables, plus vite nous allons pouvoir justement encore mieux stabiliser. Notre motto, c'est de dire la stabilisation ne passe pas uniquement par la sécurité. Elle ne passe pas uniquement par la mise en place d'éléments de police, de gendarmerie, de forces armées, etc. Elle passe aussi par une population qui retrouve une vie normale et qui aussi retrouve sa citoyenneté et son appartenance, ce sens de l'appartenance à une terre, à un endroit, à un village, à un pays, à une nation. Et certes, vous avez raison, nous avons à adresser différentes urgences en même temps. La plus grande difficulté, elle n'est pas tellement une difficulté méthodologique ou de manière de faire, parce que nous avons la chance en RCA que tous les acteurs, qu'ils soient de développement, de sécurité ou d'humanitaire, sont conscients et travaillent ensemble dans ce sens-là. La grande difficulté, c'est une difficulté financière. Aujourd'hui, nous sommes dans la contrainte de faire des arbitrages par rapport à où vont le très peu de financements qui sont arrivés en RCA, que ce soit par rapport à l'assistance humanitaire, mais aussi par rapport aux financements qui avaient été promis au niveau de Bruxelles et qui aujourd'hui n'ont pas vu de déboursement très très clair jusqu'au jour d'aujourd'hui, alors que ce sont des promesses qui ont été faites au mois de novembre.
D'où votre appel et celui de l'UNICEF qui tirer la sonnette d'alarme pour que les financements arrivent.
C'est l'appel de tous les acteurs humanitaires. Hein. Donc, c'est l'UNICEF, c'est le PAM, c'est l'OMS, c'est OCHA, c'est MSF, c'est le CICR, c'est ACF. C'est vraiment tous les acteurs humanitaires et c'est un appel vraiment d'urgence. Et contrairement aux autres appels pour les financements humanitaires, notre appel aujourd'hui s'inscrit aussi dans la consolidation de la paix. Ce qui est en jeu, certes, c'est sauver des vies et ça, c'est quand même fondamental. Mais ce qui est en jeu aussi, c'est réellement sauvegarder et préserver la paix en RCA. Parce que sinon, vous avez ces populations, leur vulnérabilité va augmenter. Ils vont encore plus être sous la coupe des groupes armés qui, bien sûr, vont avoir tous les éléments pour leur dire, regardez, tout le monde vous abandonne. La communauté internationale vous abandonne. Les Nations Unies vous abandonnent. Il n'y a que nous qui sommes là pour vous protéger. Il n'y a que nous qui sommes là pour vous donner de l'assistance. Et à partir de ce moment-là, c'est vraiment leur fournir un terreau absolument extraordinaire pour recruter, mais surtout pour contrôler. Vous savez, le jour où les groupes armés ne peuvent plus contrôler, c'est là où nous aurons commencé à gagner, finalement. Non pas la guerre contre les armes, mais franchement, pour moi, c'est la guerre contre la pauvreté abjecte, contre la marginalisation et contre l'injustice.
Vous avez dit que vous êtes rendu donc à Pawa, à Kagabandoro. Quel est le message le plus frappant? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en rencontrant la population centrafricaine?
Alors vous savez, j'ai rencontré beaucoup de mamans, beaucoup de mères, et elles m'ont toutes dit la même chose. On ne veut plus pleurer. Je vous assure, quand vous êtes une maman et que vous voyez une autre maman, vous regardez les yeux pleins de larmes, mais vraiment pleins de larmes. Et elle vous dit, je ne veux plus pleurer, je ne veux plus pleurer parce que voilà, j'ai mon fils qui a rejoint les groupes armés, j'ai ma fille qui a rejoint les groupes armés. Je veux dormir le soir et me réveiller en me disant, formidable, ils ont trouvé une nouvelle vie. Ce qui veut dire qu'on doit, nous nous devons d'offrir des opportunités et des alternatives aussi. Vous ne pouvez pas aller chez groupe armé, chez ces jeunes, et leur dire, vous allez juste vous désarmer. Il faut leur donner des alternatives. Et il ne suffit pas d'aller vers eux avec le discours de la paix, de la construction, etc. C'est très important de faire ça. Mais ce n'est pas suffisant. Vous savez, à travers ces groupes armés, ils ont des revenus. Et donc, quelque part, ils subsistent aux besoins de leur famille. Mais ils ont aussi une existence, ils ont aussi une reconnaissance. Il ne faut pas qu'on néglige ce côté. Donc, leur donner des alternatives, c'est leur donner aussi une existence et une reconnaissance dans leur propre communauté ou dans d'autres communautés, cela dépend des cas, mais leur donner aussi des alternatives en termes de génération de revenus. Et je vous assure, j'ai rencontré aussi des jeunes qui, effectivement, sont dans le cadre du désarmement et de la réintégration. Et ces jeunes-là m'ont tous dit, notre vie a vraiment changé. C'est formidable de se réveiller tous les matins et de ne pas avoir la peur au ventre d'être tué, d'être arrêté, d'être violenté aussi, hein, faut pas l'oublier. Même au sein des groupes, il y a quand même beaucoup de violence, surtout pour les filles. C'est ça notre avenir, c'est ça notre action. Et c'est ça que je retiendrai toujours à chaque fois que j'ai rencontré la population.
Et c'est avec le plaidoyer de Najat Rojdi pour l'appui au relèvement de la République centrafricaine que se referme cette édition d'Escale. Escale, un magazine hebdomadaire de Nu Info. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.